Bonjour, je suis Michael Boutin. Je vais interviewer Simon Chavary, professeur, entre autres, d'histoire au cégep de Saint-Jérôme. Bonjour.
Bonjour.
Donc, le sujet dont on va parler aujourd'hui, ça serait la Grèce antique, de façon plus générale ou plus précisément si on a le temps. Donc, en premier, ma première question serait que la Grèce s'est séparée en trois sections, la Grèce archaïque, classique et hellénistique. Donc, est-ce que la culture et la structure générale de la société grecque a évolué d'une quelconque façon durant ces trois périodes ou est-ce qu'elle est restée généralement la même?
En fait, il y a une affaire qu'il faut clarifier par rapport à la Grèce. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est que oui, il y a des périodes historiques, donc il y a un cheminement, une évolution chronologique dans le temps, mais il y a aussi des différences dans l'espace, parce que la Grèce est constituée, surtout pour les premières périodes, de cités-états plus ou moins indépendantes l'une des autres, puis plus ou moins différentes l'une des autres. Fait que quand on parle de Grèce comme un ensemble homogène, c'est déjà quand même assez problématique parce que les structures sociales à Sparte sont différentes des structures sociales à Athènes. La culture athénienne est différente de la culture spartiate. Fait que, autrement dit, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, il faut le prendre avec un certain grain de sel. C'est qu'il y a beaucoup de généralisation là-dedans. Il y a des différences au niveau culturel. Les différences entre la Grèce archaïque, classique et hellénistique est assez... Je dirais qu'il y a beaucoup de continuité là-dedans, dans la culture. Par exemple, l'importance, je sais pas moi, de la philosophie, mettons, dans la pensée grecque, est assez permanente. C'est-à-dire qu'elle est présente en Grèce archaïque, elle va l'être en Grèce classique, puis elle va l'être dans Grèce hellénistique. C'est sûr que la structure de la société grecque, au niveau politique, là, il y a énormément de différence. C'est-à-dire que dans Grèce archaïque, c'est beaucoup des cités-états où règne généralement une petite oligarchie, donc un petit groupe d'aristocrates qui contrôlent l'ensemble de la vie politique. C'est vrai pour la plupart des cités-états dans la Grèce archaïque, puis la Grèce classique est marquée évidemment, entre autres, par l'apparition de la démocratie à Athènes, donc d'une extension de la participation politique des citoyens à Athènes. Je le dis, la démocratie athénienne, elle n'a pas été reproduite à Sparte. Okay. Qui reste assez largement une oligarchie, donc un petit groupe, une petite élite qui gouverne. Puis ben politiquement ensuite, la Grèce hellénistique, ce sont de grands royaumes. Fait que c'est plus des petites cités-états plus ou moins indépendantes, décentralisées, mais de grands royaumes qui couvrent là, évidemment d'immenses territoires.
Dans votre développement sur la structure, vous avez parlé beaucoup de Sparte et d'Athènes. Est-ce que vous pourriez me donner la structure de la vie à Athènes, puis par la suite la structure de la vie à Sparte pour permettre de...
Oui, ben assez rapidement, parce qu'évidemment, c'est des infrastructures, des systèmes politiques qui sont extrêmement complexes, tu sais, puis qui seraient quand même assez difficiles à résumer en peu de temps, là. Mais disons que si on s'attarde au modèle démocratique athénien, c'est sûr que c'est pas la même chose à Sparte, dans le sens qu'à Athènes, t'as autour de 30 000 citoyens qui participent activement au pouvoir politique. Okay, donc, évidemment, ces 30 000 personnes-là sont tous des hommes athéniens, okay, donc nés à Athènes de parents athéniens, puis des hommes, évidemment, libres, donc qui ne sont pas des esclaves. Fait que ça exclut quand même probablement autour de 85-90% de la population. Néanmoins, ce 10%-là, donc, a un mot à dire, prend part pleinement au processus de décision politique. Les institutions dans la démocratie athénienne, l'ecclésia, l'élié et la boulé, représentent aussi, c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qui est assez nouveau en fait, représentent une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que l'ecclésia va représenter le pouvoir législatif, donc celui de voter les lois. La boulé, le pouvoir exécutif, donc d'exécuter ces lois-là. Puis l'élié, le pouvoir judiciaire, donc de faire respecter les lois. Okay? Puis à l'intérieur de ça, ben dans l'Ecclésia, c'est tous les citoyens prennent part donc au vote des lois, etc., etc., décident de la paix, de la guerre, bon. Puis dans les deux autres institutions, boulé et lié, c'est les citoyens sont choisis au hasard. Fait que tu sais, il y a un souci quand même d'équilibre des pouvoirs, puis un souci de prévenir d'éventuels abus de pouvoir, puis d'éventuelles prises de possession du pouvoir. Okay? Fait que ça, c'est Athènes. Donc, c'est ce qu'on appelle la démocratie athénienne. Mais évidemment, comme je te dis, la démocratie athénienne, ça couvre pas toute l'histoire de la Grèce antique, mais quand même une période assez, somme toute, limitée. Puis, limitée à la Grèce classique. Sparte, qui est une société essentiellement militaire, ben, déjà, c'est une monarchie. Okay? Puis, une monarchie bicéphale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux cerveaux. Donc, il y a deux rois. Un roi qui s'occupe, disons, de l'administration de la cité, puis un roi qui s'occupe de l'administration de la guerre, donc qui part à l'extérieur, qui va avec ses armées, etc. Comme justement Sparte est souvent en guerre, est une société extrêmement militarisée, ben ça prenait un souverain pour s'occuper de la ville en l'absence du roi qui est un guerrier puis qui est constamment donc au combat. Il existe à Sparte des institutions qu'on aurait pu confondre avec des institutions démocratiques, des conseils, hein, ceux qu'on appelle les égaux, là, donc les personnes qui sont libres à Sparte, prennent part à la vie politique, mais n'ont pas vraiment de pouvoir décisionnel. C'est-à-dire qu'ils se réunissent en assemblée, mais n'ont pas de pouvoir décisionnel, ne vont pas voter les lois, etc., mais sont quand même intégrés à une forme de vie politique. Mais il reste que c'est beaucoup, beaucoup plus centralisé autour d'un petit nombre de personnes à Sparte, alors qu'à Athènes, les citoyens qui prennent part à la vie politique sont plus nombreux.
La cité d'Athènes et de Sparte ont souvent été en confrontation. Mm-hmm. Et une de ces confrontations-là a été la guerre du Péloponnèse. Mm-hmm. Quelle a été la cause de la guerre du Péloponnèse?
Bon, on reconnaît généralement que la cause, c'est l'impérialisme athénien. Donc, suite aux guerres médiques là, qui ont lieu au début du 5e siècle, là, donc grosso modo là, vers 490 là, à peu près, là, moins 490, on s'entend, Athènes sort grande victorieuse de la guerre contre les Perses, donc les guerres médiques, et le prestige que sa victoire militaire, qui était acquise avec toutes les autres cités-États, mais dont elle avait le rôle directeur, va la pousser notamment à fonder la Ligue de Délos. Donc, il y a un tissu d'alliance centré autour d'Athènes pour la défense du territoire grec. Cette ligue-là va devenir l'instrument de l'impérialisme athénien. Puis quand je veux dire l'impérialisme athénien, qu'est-ce que je veux dire? C'est la volonté d'Athènes, plus ou moins, d'imposer sa volonté à ses voisins, donc aux cités-états grecques voisines, à imposer ses institutions, à taxer, donc à imposer un tribut à ces cités-états-là, qui va servir d'ailleurs à financer plusieurs des monuments qu'on connaît encore à Athènes. Donc, évidemment, éventuellement, on va vouloir faire contrepoids à cette puissance-là athénienne, à cet impérialisme athénien-là, puis va se constituer la Ligue du Péloponnèse, qui est une ligue centrée, elle, autour de Sparte. Okay? Donc, la guerre du Péloponnèse est causée par quoi, principalement? Bien, par la volonté de certaines cités-états de mettre un frein à l'expansion de l'influence d'Athènes, bref, à l'impérialisme athénien. Est-ce qu'il y a d'autres causes? Probablement, mais on s'entend généralement pour dire que c'est la principale.
Pour aller vers un point plus pratique de la société grecque, comment est-ce que les Grecs cultivaient, s'appropriaient de la nourriture? Parce que les terres grecques étaient pauvres en nutriments. Comment est-ce qu'ils faisaient pour pouvoir se nourrir quand même?
Comment est-ce qu'on exploitait la terre? Ben, les Grecs avaient recours massivement à l'esclavage. Pas exclusivement. À Athènes, il y a des paysans qui sont libres. Libres est à mettre entre guillemets, parce que souvent, on se retrouvait dans une situation de ce qu'on appelle l'esclavage pour dette, où ils vont être tellement endettés à l'égard des aristocrates qui possèdent la plupart des terres que leur statut social va s'apparenter de plus en plus à l'esclavage. Et c'est pas étranger d'ailleurs à l'apparition de la démocratie à Athènes, quand ces paysans-là, qui sont supposés être libres, mais qui ne le sont pas à cause de l'endettement à l'égard des aristocrates, de l'élite terrienne, vont réclamer justement la fin de puis des réformes, etc., qui vont entre autres déboucher sur la démocratie à Athènes. Mais c'est sûr que comment on exploite la terre en Grèce, c'est beaucoup à travers l'esclavage, pas exclusivement. Mais comme tu dis, l'autre volet de ta question, c'est que éventuellement les terres vont venir à manquer, parce que l'agriculture est somme toute rudimentaire. La production ou la productivité, je devrais dire, est pas géniale. Fait que rapidement, on va devoir se tourner vers la colonisation. C'est pour ça que la colonisation arrive si tôt dans l'histoire de la Grèce, dès la Grèce archaïque, là, généralement vers moins 700, c'est les premières entreprises de colonisation, parce que les rendements agricoles en Grèce comme tels sont pas suffisants. Fait qu'on va se tourner vers l'extérieur, aller coloniser de nouvelles terres pour produire le manque à gagner, finalement.
Dans ce qui est d'Alexandre le Grand, donc la Macédoine qui envahit la Grèce, comment est-ce que la Macédoine a pu envahir la Grèce quand, à cette époque-là, la Grèce était considérée comme une des plus grandes puissances?
T'as-tu dit Alexandre le Grand?
Son père, en fait.
Son père, Philippe de Macédoine, c'était juste pour cela.
Dans le temps, en fait.
Donc, pourquoi est-ce que Philippe de Macédoine a réussi, ou comment il a réussi à envahir la Grèce? Ben ça, c'est sûr, on s'entend. C'est des questions qui sont extrêmement difficiles à répondre, parce qu'on manque de documents, on manque de preuves. Généralement, les conquêtes militaires, c'est très, très... Il y a beaucoup de contingences, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup... Ce qui fait que là, après ça, 2500 ans plus tard, de dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, puis comment, puis pourquoi, c'est assez difficile. Cela dit, outre des qualités militaires évidentes, je pense qu'entre autres, Ce qui explique ces victoires, c'est notamment la division de la Grèce. Parce que la Grèce, c'est pas un État centralisé. Puis après les guerres du Péloponnèse, qui ont pesé extrêmement lourd démographiquement, économiquement, etc., la Grèce, de manière générale, après les guerres du Péloponnèse, la Grèce est affaiblie. Okay? Puis lui, il arrive pas excessivement longtemps après ça. Okay? C'est facile de jouer sur les rivalités entre cités-États aussi. Bref, de ce qu'on pourrait dire diviser pour régner. Puis, il est quand même attesté que certaines des conquêtes de Philippe de Macédoine ont été faites à travers la négociation et pas seulement l'utilisation des armes. C'est-à-dire qu'il y a des cités-États grecs qui ont accepté, qui ont reconnu, si tu veux, sa souveraineté sur eux, qui ont reconnu donc sa domination, etc., parce qu'il n'y avait tout simplement pas les moyens de se battre ou parce que ça les avantageait par rapport à des rivaux, etc., etc. Fait que c'est une conquête d'un territoire, mais une conquête qui se fait pas uniquement par des moyens militaires, mais des moyens économiques. Il a acheté littéralement des conquêtes, etc., etc. Mais il profite d'un contexte qui semble être assez favorable, en plus de ses qualités de conquérant, certainement, mais ça, c'est un peu difficile à déterminer.
Donc, Philippe de Macédoine a été assassiné peu de temps après ses conquêtes. Son fils Alexandre, lui, est allé faire la guerre avec les Perses. Ses armées étaient souvent beaucoup moins nombreuses que les Perses. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ses armées aient tout de même gagné contre les Perses?
Pas vraiment capable de dire pourquoi les effectifs concrètement de l'Empire perse, l'effectif militaire. Une chose est sûre, c'est que c'est un empire qui est immense, puis qui est, à bien des égards, vide. C'est-à-dire que c'est des grands terres, puis il n'est pas vide. Il y a des villes, puis il y a des villes très prospères à l'intérieur de l'Empire perse, mais il reste que c'est un immense territoire. Par définition, défendre un territoire comme ça, c'est extrêmement complexe. Alexandre s'appuie sur une armée de professionnels qui est extrêmement, extrêmement bien entraînée et dont le métier est de faire la guerre. Okay? Donc, évidemment, ça présuppose ou ça suppose des qualités militaires un peu hors du commun. Une autre affaire aussi, c'est le type de domination qu'il installe sur les territoires conquis. Alexandre, oui, j'ai été élevé à la grecque, il est pétri de culture grecque, etc., etc., mais il est fasciné aussi par la culture perse. Ce qui fait qu'il ne va pas systématiquement détruire les territoires qu'il conquiert, puis à tout prix assimiler les populations, puis etc., etc. Il est assez tolérant, si tu veux. Ce qui fait que, en retour, il suscite pas une énorme résistance non plus. Ce qui fait que la Perse, en tant que... Autant on peut percevoir que pendant les guerres médiques, quand la Perse envahit la Grèce se soulève, mais tu sais, d'un presque... Ben, en tout cas, c'est ça qu'on dit, là, mais d'un même élan. Il y a un sentiment commun à toutes les cités-états grecques que la culture est en danger, que le territoire est en danger, puis il y a un soulèvement. Mais avec Alexandre, c'est pas la même chose. Il va prendre le contrôle d'une ville, mais son contrôle est assez léger. Il va pas à tout prix tout renverser les structures sociales, etc. Il va maintenir les élites en place, etc. Ce qui fait que, finalement, en arrière de lui, lève pas une espèce de résistance perse. Puis ça, c'est sûr que ça facilite, évidemment, les conquêtes d'un territoire comme ça.
Donc, Alexandre le Grand finit par conquérir la Perse. D'ailleurs, l'empereur perse est tué par ses propres hommes, lui amène la tête à Alexandre le Grand. Mm-hmm. Après ça, au retour vers son pays, il décède. L'empire perse et grec, par la même fait, se scinde en plusieurs micro-pays. Comment est-ce que ça s'est fait, ça?
Bon, en fait, c'est les volontés d'Alexandre lui-même que de séparer son empire entre ses grands généraux. Je pense qu'on les appelait les diadoques. Ils sont quatre généraux. Il y a notamment Cassandre en Macédoine. Il y a Ptolémée, où il y a l'Égypte. Il y a les Séleucides, etc. Bref, quatre grands royaumes ou quatre grandes provinces, chacune dirigée par un de ses anciens généraux, fidèles compagnons, etc., etc. Puis là, ben, la suite des choses, c'est des rivalités entre ces généraux-là, mais ça, ça ne participe pas de la volonté d'Alexandre.
Comment est-ce que la religion était pratiquée en Grèce? Comment est-ce qu'elle était vue?
Le mieux, je pense, c'est de le comparer ou de le mettre en opposition avec le christianisme ou les religions révélées comme ça, les religions monothéistes qu'on connaît, le judaïsme, l'islam puis le christianisme, là, qui ont toutes les mêmes racines, là, qui viennent toutes du même tronc commun, qui sont des religions très personnelles. C'est-à-dire que la vie religieuse se vit intérieurement. C'est la foi d'un individu qui croit en Dieu, etc., son rapport avec Dieu. Tout ça se fait de manière très intériorisée, très personnelle. La religion en Grèce, puis ça va être la même chose à Rome, on dit souvent que c'est une religion civique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la religion se vit de manière publique. rentre dans toutes les sphères d'activité publique, que ce soit les sacrifices qui sont faits au début des pièces de théâtre, on consulte les oracles avant de partir en guerre, etc. Fait que donc, ça influence la politique, l'art. Mais c'est vécu en communauté, de manière très ouverte. Évidemment, c'est une religion polythéiste. Chaque cité-État voue des cultes particuliers, spécifiques à certaines divinités. Puis je pense que c'est ça aussi la différence. C'est justement ce qu'on appelle les pratiques cultuelles. Donc, pas culturelles, mais cultuelles. Donc, c'est tout tourne autour de cultes qui sont très, très codifiés puis qui sont un peu partout dans la vie. Puis, c'est un immense facteur d'identification à sa cité, etc. La cité, bon, telle cité est incarnée ou protégée par telle divinité. Puis là, les citoyens de cette cité-là s'identifient à telle divinité plutôt qu'à une autre qui est la représentante ou le représentant d'une autre cité-là, etc. Fait que c'est ça, ça se vit beaucoup de manière très, très collective. Puis il n'y a pas tant de religiosité intérieure ou personnalisée.
Donc, pour conclure l'entrevue, je vais poser une dernière question. De nos jours, il y a les Jeux olympiques à tous les 4 ans. Mm-hmm. On dit que ça origine la Grèce antique.
Ouais.
Pour quelle raison est-ce qu'ils faisaient des Jeux olympiques?
Ben, pour plusieurs raisons. C'est sûr qu'à la base, le sport est un moyen d'évacuer des tensions entre des communautés. Et puis de les évacuer autrement que par le massacre, par la guerre, par la violence directe. Okay? Donc, le sport, à bien des égards, est une guerre, mais par d'autres moyens, par des moyens plus pacifiques. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça, puis ben, de la même manière, c'est-à-dire que c'est l'occasion rêvée de mettre de l'avant, puis de tester les qualités de ta cité-État contre les qualités d'une autre cité-État, finalement. Fait que c'est des compétitions, ni plus ni moins, entre des représentants de différentes cités-États. Puis ça, d'ailleurs, si je ne m'abuse, les Jeux olympiques arrivent très tôt dans l'histoire de la Grèce antique. C'est pas une invention tardive, mais au contraire, ça arrive assez rapidement. C'est sûr qu'on va toujours, en Grèce, mettre beaucoup d'accent sur les valeurs qu'on associe généralement et qu'eux associent définitivement à la masculinité, mais la virilité, l'agilité, la beauté du corps, etc. Ben, dans ce sens-là, les Jeux olympiques sont une excellente occasion de mettre toutes ces valeurs-là de l'avant. Mais c'est sûr qu'il ne faut jamais perdre de vue le fait que c'est une compétition entre quoi? Ben, principalement entre cité-État, okay? Pour la gloire et le triomphe de ta cité-État d'origine.
Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'entrevue.
Ça me fait plaisir. Fait que bonne chance dans la suite des choses.
Merci beaucoup.